Chapitre 2. Pourriture dorée. Au lunch, cette simple enfant d'Helvétie s'aperçut bien vite qu'elle avait tout à apprendre. Déjà, le bruit du gong, qui remplissait la maison de sa vibration formidable, l'avait fait tressaillir. « Ce sera leur genre de cloche pour les repas, » pensa-t-elle. Et elle descendit. Elle ouvrit au hasard une porte qui se trouva être en effet celle de la salle à manger, mais sur le seuil, elle hésita. La jeune Rosamonde, 12 ans, perchée sur le dossier d'un haut fauteuil de cuir, s'y livrait à une gymnastique extraordinaire. Son buste pendait en arrière, ses jambes pendaient sur le devant, tout à fait comme un traversin plié par le milieu sur un chevalet. Et les jambes, longues et minces dans leur bas noir, gesticulaient. En face du spectacle, le butler, ce fonctionnaire supérieur de la domesticité, qu'en français on dénommerait maître d'hôtel ou majordome, le butler, les deux poings sur ses hanches, riait, si sa grimace libidineuse n'était pas plutôt un ricanement assez sadique. L'œil de Rosamonde, bien qu'à l'envers, du coin du dossier, aperçut Thérèse effarée, incertaine d'avancer ou de se sauver. Aussitôt, la fillette opéra un rétablissement instantané, glissa sur le cuir, se trouva assise au fond du fauteuil. « Je suis souple, n'est-ce pas ?»« Me graille, je ne voulais pas croire que je suis si souple, alors je lui montrai. Bon, voici les autres. » Le butler prit sa place près du buffet. Figure de bois, favori correct, pas plus d'expression qu'un mannequin. « Maman vous prie de l'excuser, elle déjeune en ville, » dit Miss Connie, l'aînée des 4 sœurs. « Vous voudrez bien accompagner les petites chez notre professeur de danse, et ensuite, Julia et moi à la promenade. » Le butler servit Miss Connie la première, parce qu'elle occupait la place de sa mère au haut de la table. Ensuite, Thérèse, trop heureuse d'avoir un modèle pour la façon de s'y prendre. Elle n'avait jamais vu de couteau à poisson en argent. On lui avait soigneusement inculqué que le poisson ne doit point être touché avec un couteau d'acier. Elle refusa le vin que Meugrage lui offrait en murmurant à son oreille « Claret, miss !» Elle mangea très peu, car dès la première minute, ses 4 élèves la harcelèrent de questions, de remarques ou d'interjections dans les 2 langues. Connie était assez belle de traits, grande et mince, mais sans teint, comme déjà fanée. Julia, qui avait environ 15 ans, était laide, d'une laideur malsaine, les yeux lourds, des ombres presque verdâtres au creux des joues. Mais Mondi, ou Rosamonde, par contre, une vraie petite beauté aux couleurs éclatantes, aux yeux noirs, montrait en riant à tout propos les plus jolies petites dents du monde, et se trémoussait sur sa chaise avec la vivacité d'un lézard. Ethel, la cadette, paraissait languissante au contraire. Blanche, onduleuse, distraite, elle parlait moins que ses sœurs. Ses mouvements étaient lents, d'une grâce un peu maniérée. On avait mangé du poulet rôti, puis des asperges, menu léger, à cause de la leçon de danse. On était au dessert quand le butler prononça « Ne vous bourrez pas de noisettes, mesdemoiselles, la voiture sera là dans 10 minutes. » Thérèse comprit très bien l'expression anglaise « Don't stuff yourself ». Et quand les 4 jeunes personnes pouffèrent de rire, elle se demanda si elle avait tout rêvé, depuis l'exercice du traversin et le vilain ricanement de Meugrage, jusqu'à ses familiarités déconcertantes. Décidément, la maisonnée Naïmol sortait tout à fait du genre « roman anglais recommandé ». L'idée de maman, fit Connie, c'était que nous nous empilions toutes les 5 dans le fiacre. Économie de 1,06 shilling. Mais j'ai mis mon pied en bas. Traduction d'un anglicisme qui signifie « s'opposer », mettre son pied dans la porte pour l'empêcher de se fermer. « Mademoiselle reviendra dans le fiacre nous prendre quand elle aura livré les petites au bourreau. »«
Moi, j'aime bien notre bourreau, » fit languissamment Ethel.
« Oui, parce que tu es sa favorite, » s'écria Mondi, « parce qu'il t'offre son siège et qu'il te dit « Mettez-vous là, je vous l'ai chauffé. » »« Il est français, monsieur Gaillard, » ajouta-t-elle pour enseigner Thérèse. « Ah, ce qui valse bien, il est divin quand il valse !» Dès qu'elles furent les 3 dans la voiture, Mondi, se tournant vers Thérèse, prononça « Je n'avais pas encore vu votre chapeau, il est bien, mais vous savez que l'œil de paon porte malheur. » Thérèse était coiffée d'un chapeau sérieux qu'on appelait cette année-là « capote Alexandra » et la garniture en était une bande plate de plumes de paon collées où les yeux chatoyants étaient disposés avec symétrie. « Dans ce cas, il arrivera beaucoup de malheurs ce printemps, » répondit Thérèse. « J'ai vu l'œil de paon dans toutes les devantures des modistes. »
« Ce bleu vous va très bien, » murmura Estelle. « Vous avez tellement de teint, vous pourriez en revendre à Julia. »
Et quand elle avait parlé de son air de n'y pas toucher, elle semblait n'avoir rien dit. « Vous savez toutes si bien le français que je me demande à quoi vous sert une institutrice française, » remarqua l'institutrice qui n'avait encore jamais fait d'éducation.
« Mais voyons, vous êtes notre chien de berger !» s'exclama Bondy. « Nous sommes trop âgés pour les bonnes. Une femme de chambre, ce n'est pas assez chic. Et puis, nous sommes quatre, une grosse tranche à partager. Connie sort déjà avec maman. Julia aime sa trondiche qui lui apprend des choses... comment ? Capiteuse ? Oui, capiteuse !»
Dès que Thérèse eut remis ses deux innocents agneaux à l'énorme Madame Gaillard, qui, assise près de la porte des salons de danse, accueillit les arrivantes avec des effusions et des compliments, elle se hâta de remonter dans son fiacre, se demandant quelle nouvelle révélation, d'une mentalité inconnue jusqu'ici à son honnête simplicité, l'attendait. « Je me déniaise, il n'y a pas d'erreur, et ça va vite, » pensait-elle. Connie et Julia, marchant à côté d'elle, se tenaient admirablement, aussi correctes que la jeune fille française bien élevée. Elles dirigèrent la conversation dans le but évident d'instruire leur institutrice. Elles lui apprirent que ce printemps, on devait tenir l'ombrelle fermée ou le parapluie par le milieu du corps et non par la poignée, qu'il y a une allée à la mode et une qui ne l'est pas, à droite et à gauche de la piste des cavaliers, qu'à Londres, une dame et même une jeune fille saluent la première un monsieur jeune ou vieux pour l'autoriser à saluer en réponse. Ensuite, la conversation prit un tour religieux assez inattendu. «
Nous sommes haute église, cela va sans dire, aussi haute que possible, » dit Connie. « J'ai un petit hôtel dans ma chambre, je vous le montrerai, mademoiselle. Toute la sainte famille, des figurines hautes comme mon doigt, jolies comme tout. » Je dis mes péchés à notre bonne mère. En rentrant, nous passons à Sainte Fidélia, une chapelle mignonne, une vraie bonbonnière, vous verrez. J'y fais ma petite dévotion. »
Elle et sa sœur Julia échangèrent un coup d'œil, un rire étouffé.
Oui, fit Julia, nous avons un prie-Dieu à nous, avec un dossier qui ferme à clé comme une boîte aux lettres. C'est pratique. Tu as la clé, Connie ? « Vous pourrez rester dehors, mademoiselle. Vous êtes une raide protestante, n'est-ce pas ?»«
Je suis protestante, » répondit Thérèse, « mais j'entrerai tout de même avec vous. » Il n'était pas nécessaire d'être un détective bien subtil pour saisir au vol le petit escamotage autour du prie-Dieu. Connie s'agenouilla et, sous l'abri de sa tête penchée, de son bras gauche accoudé, elle glissa une clé dans la minuscule serrure, souleva le couvercle du dossier où, dans cette sorte de boîte, dormait un édifiant livre de prière. Thérèse, debout, se pencha vers Connie, mais Julia promptement s'interposa, entourant de son bras l'épaule de sa sœur, de manière à cacher le livre qu'elle feuilletait rapidement, puis qu'elle referma d'un air déçu et maussade.
« Votre dévotion est vite faite, » dit Thérèse quand elles franchirent de nouveau le portail.
Connie eut un geste d'impatience et Julia une grimace de dérision. La rue aristocratique qu'elle suivait était bordée de hautes maisons, noircies par l'éternelle fumée de Londres, mais des jardinières longues en céramique, pleines de fleurs, jonquilles, narcisses, jacinthes, égayaient chaque fenêtre et chaque balcon au-dessus du perron à colonnes. Des femmes élégantes, des gentlemen en tenue impeccable, sortaient de ces belles demeures, ou y entrer, ou encore se promener dans le petit square grillé qui faisait face. Thérèse remarqua que Connie saluait souvent le monsieur qui les croisait. Elle inclinait la tête gracieusement avec un sourire.
Le monsieur ôtait précipitamment son chapeau, d'un air étonné, comme quelqu'un qui se demande « Mais voyons, qui est cette jeune personne ?»«
Vous connaissez beaucoup de monde dans ce quartier ?» ne put s'empêcher de dire l'institutrice, qui n'avait pas encore fait d'éducation.
« N'est-ce pas ?» fut toute la réponse de Connie. Julia prenait un air ennuyé.
« Tu sais, je m'embête dans les grands prix » protesta-t-elle.
Puis elle se mit à parler anglais très rapidement et à demi-voix.
« Comme tu voudras, » fit Connie d'un ton affable de sœur aînée.
« Nous rentrerons par la gare de Victoria, mademoiselle. C'est tout près de chez nous. »
« La dernière fois, nous avons entendu une scène, » dit Julia qui prit le bras de Thérèse pour la faire marcher plus vite. « Il y avait une demoiselle qui cramponnait un monsieur. » Elle se plaignait au policeman que ce monsieur lui avait volé sa montre chez elle deux nuits avant. Elle le repinçait là. « J'ai appris des mots nouveaux. Trondich me les a expliqués. C'est bien plus amusant que les belles rues. Dépêchons-nous. Mais le soir, ça serait encore plus drôle. »
L'énorme gare, avec sa marée intérieure montante et descendante de voyageurs, de porteurs, de fiacres, intéressa Thérèse. Mais Julia eut beau tourner la tête de tous les côtés, elle ne surprit aucun incident du genre qu'elle espérait.
« On se rase, rentrons pour le thé, » fit-elle boudeuse.
Le thé des jeunes filles était servi dans la salle d'études au second étage. Thérèse fut informée que son devoir et son privilège étaient de le verser et qu'il fallait savoir si chaque personne prenait du lait, de la crème, du sucre et combien de morceaux.
« Chez nous, on passe le sucrier et le crémier et chacun se sert comme il veut. C'est plus simple, » se permit-elle de faire remarquer.
« Oui, la mode française. Je crois qu'on commence à l'adopter dans les maisons tout à fait chics où il y a deux valets de pied pour offrir les plateaux, » dit Connie d'un air profondément réfléchi.
« Mais, » s'écria-t-elle beaucoup plus vivement, « vous oubliez de rincer ma tasse, mademoiselle. » Voilà le bol rincé, le pot d'eau chaude. Je ne vais pas boire ma seconde tasse non rincée. Vous ne savez donc rien de ces usages ?
Chez nous, répéta Thérèse en essayant de ne pas rougir, ce qui la fit rougir davantage, on ne rince pas les tasses. Je trouve ce bol de rinçage assez dégoûtant. On met une passoire sur la tasse ou un joli petit panier d'argent dans le bec de la théière, comme ça, il n'y a pas de feuilles dans la tasse.
« Vous voudrez bien, mademoiselle, vous conformer à nos coutumes, » dit Connie de son ton important, si parfaitement ridicule.
Et Thérèse se souvint que cette jeune personne avait déclaré « Nous la formerons ».